Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons du divin au féminin, de Dieu au féminin, avec l'islamologue Éric Geoffroy. Éric Geoffroy, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir nous parler du Dieu au féminin. Enfin, en réalité, le titre de votre ouvrage, c'est « Allah au féminin ». Mais comme je dis toujours sur cette antenne que Allah n'est que la divinité arabe, ainsi, l'appellation arabe de la divinité, si nous parlons en français, nous disons Dieu. Donc, Allah au féminin.
Et les chrétiens orientaux prient Allah.
Comme vous le dites si bien, les chrétiens orientaux parlant arabe célèbrent l'Eucharistie en s'adressant à Allah. Et si je lis le prologue de Saint Jean en arabe, je lis « Fil bat'i kanat il kalimatu hi Allah ». Donc, au début, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe est Dieu. Mais ce qui nous importe, c'est cette notion du genre, de la place de la féminité, du féminin dans la spiritualité islamique. Vous êtes vous-même président de la Fondation de la Conscience Soufie. Vous êtes un fin connaisseur de la tradition spirituelle islamique. Et comme je l'ai dit en début de notre entretien, vous êtes islamologue de renom. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire de Dieu au féminin?
Alors, il y avait un sous-titre prévu en couverture qui était, bon, pour préciser les choses, le féminin avec un grand F, le principe féminin, et la femme dans la tradition soufie. Mais le titre seul, finalement, se justifie au sens où, au moins de deux points de vue, de deux angles. Dieu féminin, c'est le fait que les plus grands, parmi les spirituels, parmi les soufis, Ibn Arabi, Ibn al-Farid, Rumi, se sont adressés parfois à Dieu au féminin. Autre, et schématiquement, l'autre biais par lequel ce titre est tout à fait justifié, c'est comment le Dieu de l'islam est vécu, a été vécu, perçu, habité, je dirais, par des femmes.
Donc là, vous nous parlez de deux aspects. L'aspect premier qui consiste à dire que les grands spirituels, les grands mystiques, les soufis, les hommes de grande intériorité spirituelle s'adressent à Dieu au féminin. C'est nouveau pour les auditeurs, y compris pour des auditeurs musulmans. Et aussi, il y a les grandes figures de la spiritualité islamique que sont des femmes et que nous ne connaissons pas ou que nous ne connaissons que très peu. Attardons-nous sur le premier aspect. Pourquoi ces grandes figures emblématiques, notamment de la tradition soufie, s'adressaient-elles à Dieu au féminin?
Parce que si on suit Ibn Arabi, donc le grand maître qui est mort en 1240, qui est
né en 1165
à Murcie. 1165 à Murcie, donc un Espagnol, un Andalou, à l'époque andalouse donc de l'islam.
Et mais donc, mort à Damas.
Mort à Damas, voilà, en 1240, donc qui a appelé le Cheikh al-Akbar, le grand maître, qui a produit ce qu'il dit sur le féminin. C'est principalement dans les Futuhat Mekkiyat, dans les ouvertures mekkoises. Et il va très loin. Un auteur arabe, qui n'est pas connu, disait, qu'il va plus loin sur le féminin, sur le principe féminin et sur la femme biologique même, que les féministes occidentales contemporaines. C'est-à-dire, il est plus fondamental, il est plus radical, si je puis dire, au sens où pour lui, d'un point de vue ontologique et d'un point de vue spirituel, la femme est plus proche de Dieu que l'homme.
Oui. Et alors, quels sont ces arguments?
Ils sont multiples, ils sont complexes, comme toujours chez Hachem Narabi, et il est suivi par son disciple à travers le temps, l'émir Abdelkader, Al-Jazairi, Abdelkader, qui, Abdelkader n'est pas toujours d'accord avec Narabi, mais sur ce point-là, il le suit, hein. Bon, alors, Abdelkader, qui est du 19e, il est mort en 1883, mais, comme toujours dans la spiritualité islamique et dans la voie initiatique, il est en lien spirituel.
Et il dit qu'il a reçu l'investiture spirituelle en songe et qu'il l'a revêtue de son froc ou de son manteau.
Alors, parmi les arguments qu'ils avancent, c'est que l'homme représente le principe actif, le fi'l ou bien le fa'liya, tandis que la femme, ou bien le féminin, serait le principe réceptif. Donc, el qabilia, ou bien el infialia. Et il note que la femme a plus de facilité à conjoindre en elle, donc à accomplir une complétude entre ces deux principes. Alors que l'homme, le mâle, a davantage peur que la femme de réaliser en lui son féminin, qu'il a oublié l'insan nasin. Alors l'insan, c'est pour les deux sexes, hein, en arabe, c'est le genre humain. Mais l'homme est plus oublieux de son origine divine unifiée, puisque nous venons de Dieu et lui nous retournons. Donc nous avons vécu dans l'unicité divine et nous, la chute sur terre, qui n'est pas du tout une sorte de malédiction en islam, c'est un mode de reconnaissance de Dieu à partir de la dualité. Eh bien, la femme a plus de facilité, elle a un potentiel pour réaliser en elle cette complétude. Ils vont très loin aussi en disant, par exemple, que pour Ibn Arabi et pour l'émir, le cosmos est géré par les non-divins. L'essence divine est au-delà. Donc, le monde est géré par les non-divins. Or, ces non-divins, ils nous disent qu'il sera resté néant, simple possibilité, s'il n'y avait pas la réceptivité féminine.
Oui, ah. Il y a aussi cette idée que l'unité divine, l'unité de Dieu, l'unicité même, transcende le clivage de genre. Et comme nous devons réaliser dès ici-bas cette unité, il faut aller au-delà de ces questions sexuées, homme-femme, et qu'à l'origine même, il y a cette androgyna, une androgynie originelle.
Tout à fait. Ibn Arabi rappelle que notre sexuation, c'est-à-dire dans le genre humain, mais dans le genre animal, oui, et dans d'autres règnes également, la masculinité ou bien la féminité biologique, c'est arid, c'est un mot à mot accidentel, c'est contextuel, c'est contingent. Ce n'est pas du tout notre nature pure, originelle. Il y a un verset aussi qu'il commande beaucoup, c'est le verset 66:4, qui est un verset étonnant, c'est lorsque on sait que deux des femmes du prophète, des femmes majeures, Aïcha et puis Hafsa, se sont liguées à un moment, pour une histoire un peu de jalousie, se sont liguées à un moment contre le prophète. Dieu dans le Coran intervient en disant, attention, si vous liguez contre lui, sachez que Dieu est son maître, Maoula, donc, est son protecteur au prophète, ainsi que l'archange Gabriel, ainsi que les saints parmi les hommes et les anges. Et Ibn Arabi se pose, alors que la plupart des commentateurs du Coran esquivent. Hein, parce que c'est quand même Ibn Arabi et l'émir le suit en cela. Il dit, mais attendez, mais quelle est la force? Quel est le secret de la force féminine pour que Dieu se convoque lui-même, convoque l'archange Gabriel, les saints et les anges, hein, contre ces deux femmes. Et donc, suit tout un développement sur le secret de la force féminine, et l'émir Abdelkader dit que Ibn Arabi, en son temps et dans son œuvre, n'a pas tout dévoilé sur ce secret de la force féminine. Mais il dit qu'à un moment qu'une partie du secret, c'est que la femme ayant plus de complétude est donc plus proche du divin. Il dit aussi qu'il y a une transparence dans l'être féminin, dans l'être, le simple être, de nature mariale, c'est-à-dire l'effacement, la pure transparence à Dieu, qui est bien supérieure, bien antérieure, même au niveau métaphysique, aux pensées de type masculin.
Oui, j'ai appris, mais je vous pose la question, que dès lors que la séparation sexuelle ou sexuée a lieu et qu'elle est contingente, elle est accidentelle, les rapports charnels puis la dimension affective ne sont qu'une tentative de cicatriser cette blessure première due à la séparation.
C'est
donc
beau.
C'est pour revenir à colmater cette première brèche.
Mais d'où l'importance de l'acte sexuel? Bon, d'ailleurs en islam, c'est un droit. La sexualité est un droit. Et contrairement à ce qui s'est passé chez certains zohad, dans certains courants ascétiques des débuts de l'islam. Bon, mais chez les soufis, non, et en islam. Et Ibn Arabi le dit bien. La sexualité est un mode apparemment physique pour se réunifier et pour retrouver sa moitié. Et l'homme comme la femme peuvent éprouver el hanin, cette nostalgie de l'être premier, primordial, qui est dans la complétude et qui est donc d'origine divine. Parce qu'il faut comme le dire, et aux musulmans surtout, les musulmans ne sont pas Dieu évidemment, mais en islam, l'être humain est divin. Il a une source divine, puisqu'il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas de césure entre notre origine divine avant l'incarnation et notre incarnation et notre retour, justement, notre résorption dans l'unicité. Et ce travail spirituel que peuvent ou doivent effectuer à la fois l'homme et la femme, surtout en spiritualité, consiste précisément à réaliser le tawhid. Qu'est-ce que ça veut dire le tawhid, qui est le principe de l'islam? En arabe, ça veut dire unifier l'unique, c'est-à-dire unifier de manière consciente celui qui est le un. Alors que la plupart du temps, nous sommes dans la rafla, nous sommes dans la distraction, et même si nous sommes musulmans, nous, un Dieu unique est quelque part sur son trône, mais qu'est-ce que ça implique en moi, dans mon être profond?
Alors, il y a cette notion de nostalgie, en réalité, qui participe de l'infinie tendresse de Dieu. Le hanin renvoie à la nostalgie, qui renvoie à hanan, qui est la tendresse. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a pas eu de chute ou d'éviction au sens d'un rappelant un péché originel qui nécessite un acte salvateur plus tard dans une mort rédemptrice. C'est l'éviction elle-même qui est la contrepartie ou la sanction d'une transgression première, qui est celle de ne pas manger d'un arbre. Mais en réalité, là aussi je vous pose la question, il fallait qu'il y eût cette transgression pour que l'homme assume sa liberté.
Tout à fait. Mais tel que c'est présenté dans le Coran, donc le sourate 20 surtout, donc sourate Taha, c'est Adam qui est mis en cause.
Alors, et Adam seul.
Voilà. Ève, Hawa n'est jamais mise en cause en islam, sauf ultérieurement, y compris par certains soufis, mais ça c'est l'influence, une sorte d'influence judéo-chrétienne, notamment les israéliates, qui a introduit le sens du péché, en quelque sorte, qui n'est pas du tout, ni dans le texte coranique, ni dans le hadith du prophète, etc. Et on voit dans ce passage coranique, donc sourate 20, les versets 120, Dieu s'adresse au Adam primordial, donc il s'adresse au singulier. À un moment, il passe au duel. Donc déjà là, il y a diffraction, entre le masculin et le féminin, et puis ce passage chronique, donc avec la chute donc sur terre, se aboutit au pluriel, descendez sur terre, vous ennemis les uns des autres, et là on passe au pluriel. Vous voyez, donc on part de cet Adam primordial qui contient les deux principes sexués qui vont se diffracter après, et puis après qui vont se démultiplier, si je puis dire, dans l'humanité à venir et celle que l'on connaît.
Oui, le plus important dans cette réponse, c'est que Ève n'est pas mentionnée comme étant tentée, tentatrice à son tour,
exactement.
Et quelle est la cause de la chute ? Peut-être une certaine tradition tardive sous influence d'écrits,
oui.
D'un fond judéo-chrétien, comme vous l'avez si bien dit. Mais alors, comment finalement vient-on à ce fond exclusivement islamique, peut-être à cause de ces... je suis pas en train de dire dans une sorte de défausse que c'est à cause de cela nécessairement. Il va y avoir une forme de sexisme, de machisme, voire une certaine phallocratie, si ce n'est une misogynie.
Oui. Bah, c'est le poids de la coutume, le poids culturel que voilà.
Et le patriarcat arabe aussi.
Oui, tout à fait. Les historiens de l'islam disent globalement que la conscience musulmane dans les populations donc musulmanes s'effondre globalement au 15e siècle, 9e siècle de l'Hégire. Or, par ailleurs, on voit que la femme a eu malgré tout jusqu'à peu près à cette époque justement un rôle important d'enseignement notamment aux hommes. Peut-être qu'il faut évoquer quand même cette Fatima bint Abbas al-Bardadiya, donc à Damas, hein, qui est contemporaine d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il faut comme le dire, Ibn Taymiyyah qui est bien, je ne défends pas Ibn Taymiyyah, mais qui était extrêmement dévalorisé parce qu'il aurait été le mentor des wahhabites et des salafistes. Or, Ibn Taymiyyah avait une autre culture, une autre science que ces gens-là, il faut le dire clairement.
Et que même son approche drastique des choses est due à un contexte d'invasion des Tatars.
Tout à fait.
Et aussi, après aussi la chute de Bagdad en 1258.
Exactement. Or, Ibn Taymiyyah, voilà, il y a cette femme qui prêche sur un minbar, donc en hauteur devant...
Sur une chaire.
Voilà, donc un parterre d'hommes. Et il l'écoute, il dit ce qu'il dit, c'est très bien. Mais je réprouve en elle, il se parle intérieurement, mais je réprouve en elle le fait que, voilà, une femme, elle est enturbanée, elle est en vue, et elle parle aux hommes. Et je vais lui parler demain ou le lendemain. Et la nuit, il voit le prophète en rêve, c'est lui qui le dit, qui lui dit, laisse cette femme, elle est saliha, c'est une sainte femme. Et ce qui est intéressant là, c'est que Ibn Taymiyyah aurait pu taire ça. En tant qu'homme, ça, oulala, bon, j'ai fait une gaffe, je me tais. Non, il l'écrit. Il l'écrit, Ibn Taymiyyah. Vous voyez ce que je veux dire? Ce goût de la nuance, ce goût de, et donc, c'est une des marques, une des traces de la présence des femmes, jusqu'à la fin de l'époque mamelouk. Bon, moi, j'ai pas mal étudié l'époque mamelouk. Les plus grands savants qu'on étudie encore, Ibn Hajar, Suyuti, ça, ils disent tous que nous avons reçu telle science de telle femme. Ibn Hajar, hein, donc du 14e siècle, il dit avoir reçu la science du hadith 50 femmes. C'est pas une ou deux en passant, 50.
Oui.
Est-ce qu'on le dit ça aux gens?
Eh ben justement, vous êtes là pour le dire, Éric Geoffroy. Avant Fatima al-Bardadiya, mais qui était à Damas, oui. Son gentilé renvoie à Bagdad.
Oui, oui.
Mais il y a aussi d'autres Fatima, celle de Madrid, qui était, elle, plutôt versée au féru dans les sciences dites rationnel, profane, qu'est-ce que ça veut dire cela de maintenant, de nos jours? Aujourd'hui, on aurait dit exact. Et même le Cheikh Al-Akbar, docteur Maximus Ibn Arabi, avait deux maîtresses au sens de professeur, en tout cas, dont ouais. Une Fatima.
Tout à fait, tout à fait. Et un des éléments d'explication de la prépondérance donc du féminin chez lui et de la femme, par rapport à Rumi, on va parler un petit peu après, c'est en effet qu'il a eu parmi ses premiers maîtres terrestres, parce que son premier maître spirituel, il lui dit, c'est Jésus, Aïssa, mais parmi ses maîtres terrestres en Andalousie, c'est deux femmes. Et alors que Rumi, il faut en parler un peu, j'avoue que j'étais un petit peu, et j'ai parlé avec des spécialistes de Rumi n'a pas du tout le même... Rumi reprend parfois, dans ce Masnaoui, hein, qui par ailleurs est une œuvre
considérable.
Voilà, considérable.
C'est le second Coran pour ceux qui suivent Rumi.
Voilà.
Oui.
Eh bien, reprend, il faut le dire, certains poncifs de la culture ambiante iranienne. Alors, cette culture, bon, la culture islamique de l'époque, et en Iran en particulier, il y a une sorte de schizophrénie psycho-spirituelle au sens où ils subliment, enfin, ils sont dans l'éternel féminin, hein, pour reprendre l'expression de Goethe, le grand poète allemand, mais influencé par la mystique iranienne d'ailleurs. Donc, il y a la femme sublimée d'un côté, et de l'autre, il y a la femme biologique, et qui est là, est bien souvent dévalorisée. Donc, vous voyez, ils ont du mal à, ils sont dans ce schisme intérieur. Chose qu'on ne trouve absolument pas chez Ibn Arabi, chez quelqu'un qui est moins connu, mais qui a influencé Ibn Arabi, qui est très antérieur, c'est Hakim Tirmizi, mort en 932. Et là, c'est un des cas de couple connu, parce que ben, heureusement, il y a eu des couples en islam et dans le soufisme qui ont donc vécu cette harmonie spirituelle. Ce couple, Hakim Tirmizi et sa femme, recevaient des inspirations des anges, etc. Et ils demandaient, c'est pour qui? C'est pour ma mari? C'est pour moi? Etc. Il y avait cette osmose du couple spirituel qui est vraiment magnifique. أربعة خمسة ستة خمسة ستة سبعة ثمانية ستة سبعة ثمانية ستة وستة اتناش منغش كون طول اتناش واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ستة وستة اتناش خمسة ستة سبعة ستة وستة اتناش واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة خمسة ستة سبعة ثمانية ستة سبعة ثمانية ستة وستة اتناش منغش كون طول اتناش واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ستة وستة اتناش. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, avec l'islamologue Éric Geoffroy, nous parlons de féminité, du féminin, du Dieu au féminin, de la spiritualité féminine dans les contextes islamiques. Et pour cette deuxième partie, Éric Geoffroy, alors que vous nous avez clairement dit que dans les textes, il y a cette égalité ontologique, oui, au niveau de l'être. Mm-hmm. La volonté de réunifier l'un ou l'unique ou cette unicité qui est le tawhid, qui est le principe majeur, si ce n'est fondamental et unique, c'est de transcender cette distinction de genre. Cette dualité.
Et cette dualité. L'androgynie originelle est là, la sexuation ou la séparation sexuelle n'est qu'accidentelle. On a parlé de toutes ces choses majeures. Et pour cette deuxième partie, j'aimerais comprendre, outre le fait d'expliquer qu'il y a des raisons contingentes dues au patriarcat et l'ambiance ou le contexte civilisationnel ou culturel, comment a-t-on vécu pour cette traversée symbolique du fond machiste et sexiste dans les sociétés arabo-musulmanes ou dans les contextes islamiques, cette période notamment contemporaine à Rumi, mais même au-delà, avant de venir à la période contemporaine?
Alors, il y a des êtres divers, et pas toujours des soufis d'ailleurs, qui ont résisté et qui ont remarqué déjà ça. Ben, Averroès Ibn Rushd, hein, mort en 1198, note, lui déjà, qu'à son époque, donc en plein XIIe siècle, que le statut et que la place donc, de la femme dans les sociétés musulmanes a rétrogradé. Vous voyez, donc déjà à cette période. Donc il y a cette pesanteur, hein, culturelle, coutumière, bon, qu'on retrouve en islam et ailleurs, évidemment.
C'est pour ça, Éric Geoffroy, pardonnez-moi, je vous ai interrompu, que dans le commentaire moyen de la République de Platon d'Averroès, il y a cette insistance de sa part à ce que les filles aussi doivent aller au gymnase, ouais, pour les activités physiques. Ouais. De, ouais, nos jours, on aurait parlé d'activités sportives.
Ouais, ouais. Tout à
Et
fait.
Quand on sait que lorsqu'on s'adonne aux activités physiques, on transpire, il n'y a pas un emmitouflement de quelque sorte que ce soit qui tienne.
Tout à fait. Alors, bon, puisqu'on est en Andalousie musulmane, on a aussi le grand Ibn Hazm, trop méconnu en Occident en général, qui est mort vers 1060, Ibn Hazm, qui, lui, est dans cette... Alors, elle en arrive justement au duo féminin, c'est-à-dire il sacralise la femme, hein, puisqu'il appelait sa femme, j'ai plus le terme, monseigneur, voyez, enfin des choses. Ibn Hazm, qui par ailleurs est un grand juriste, un savant, etc. Donc, on a cet amour courtois, c'est-à-dire ces gens-là. Principalement, bon, dans le soufisme, Henri Corbin, bon, l'islamologue connu, qui est mort en 1978, appelle ça, enfin, il prend le terme iltibas, hein, c'est l'ambivalence, c'est-à-dire l'incréé, donc le divin, se manifeste dans le créé, et pour Ibn Arabi, pour ces gens-là, c'est la femme qui est le support privilégié de Dieu sur terre, et ils le disent, Ibn Arabi, mais d'autres le disent. Et donc, parfois, en lisant les poèmes, par exemple, le Tarjuman al-Ashwaq, l'interprète des désirs ardents d'Ibn Arabi, donc un de ses recueils de poèmes, on est parfois encore avec une femme, en l'occurrence Nizam, qu'il rencontre à la Mecque en 1201, et dans le même recueil, hop, il y a une alchimie, il y a une transmutation, et cette femme devient le divin.
Oui, ou l'incarnation du divin sur terre, Nizam, harmonie.
L'harmonie.
Qui est la fille du mufti de la Mecque.
Tout
du
à fait,
Mecque,
oui.
Et qui pour lui est la suprême théophanie, c'est-à-dire la beauté divine ou la beauté tout court est incarnée en elle.
Voilà. Et donc, Ibn Arabi nous dit que, il parle de sharaf. Il dit que ce qui est le plus noble dans la créature, pour qu'on puisse accéder à Dieu, c'est la femme. Hein? Et il va loin également au niveau sexuel, parce qu'il nous dit que bon, la position sexuelle la plus commune est lorsque l'homme est sur la femme. Et voilà, il compare ça à l'homme lorsqu'il fait le soujoud, lorsqu'il est en prosternation. Or, le prophète nous dit que c'est lorsque l'homme, durant les phases donc de la prière, est en prosternation, qu'il est le plus près de Dieu. Donc, il y a cette sacralisation donc de la femme, hein, qui est en lien avec la prière, qui est... Ibn Arabi travaille aussi beaucoup sur ce très beau hadith, la parole du prophète. Bon, très vite, hein, et le prophète dit « il m'a été donné d'aimer ». Il ne dit pas « j'aime, moi, par mon ego ». Dieu m'a fait aimer de votre bas monde trois choses, hein, les femmes, le parfum et la prière.
Et je ne trouve la félicité que dans
voilà.
La prière. Dit.
Et alors il commente, bon, parce que c'est un très bon grammairien, évidemment. Et il dit, en principe, le prophète aurait dû accorder au masculin, parce que au milieu, il y a tib, donc le parfum, qui en français est du genre masculin. En arabe, comme en français, on dit, il y a un homme et 1000 femmes, et bien on accorde au pluriel masculin. Or, le prophète a accordé au féminin. Donc il nous dit c'est pour mettre, donc Ibn Arabi commente, nous dit c'est pour mettre en valeur, hein, la primauté, la précédence donc du féminin. Et il va encore plus loin, il dit le parfum, le masculin est enchâssé entre deux féminins, hein, entre Enissa, les femmes, et la prière. Donc il va jusqu'à dire que finalement le masculin est par l'antériorité et par la postériorité, est enchâssé par le principe féminin.
Oui. En parlant de grammaire, je ne m'empêche pas de penser à ce vers du poète Al-Mutanabbi, celui qui s'est fait passer pour le prophète, mort de mémoire vers 965, oui. Dans une sorte d'oraison funèbre, il disait à propos de la mère du calife, qu'elle qui est décédée, de toute façon, nous savons qu'en langue arabe, le soleil est féminin et la lune est masculine.
Comme en allemand.
Comme en allemand. Et il dit à ce sujet que la féminité n'est pas une tare pour le soleil, bien au contraire, et la masculinité n'a rien ajouté au terne éclat du croissant lunaire. Et vous qui avez évoqué Ibn Hazm, même si on dit qu'il est dans le courant de la lecture ou de l'exégèse au sens obvi donc ouais. au sens exotérique. Mmh. Étonnamment, moi en tout cas je m'étonne, en ce qui concerne la relation aux femmes, sa vision du féminin, il est d'une extraordinaire pertinence. Dans un de ses ouvrages, il disait à propos de son épouse, ô toi où que tu te déplaces, mon regard te suit, ô toi la magnifiée, c'est comme le qualificatif suit le nom qualifié, ou l'adjectif suit le qualifié. Bon, ça c'est les grands mystiques. Qu'est-ce que vous avez par rapport à Rumi, un grand maître, aussi dans sa vision des femmes? Vous nous avez dit qu'il y a une sorte de schisme intérieur, une schizophrénie même. Le milieu ambiant serait patriarcal ou l'a été, mais la spiritualité le pousse à considérer le féminin comme un viatique pour le divin.
Oui, alors il a un vers dans le Masnaoui, enfin ou bien deux, je sais plus, mais qu'il faut lire en contexte, que Corbin a traduit, mais que bon, moi j'en avais parlé avec ma collègue Liliane Var. Donc il dit oui, enfin en gros il dit dans ce vers que la femme est un rayon de la lumière divine et qu'elle n'est pas cette amante mondaine, hein, mais elle est créatrice. Voilà. Alors, le contexte des vers, mais bon, un petit bémol, c'est qui est accentué par d'autres passages, bon, du Masnaoui notamment, ou bien de Fihi ma Fihi, donc le livre du dedans, ou encore une fois, bon, ce que je disais, ben, de fait, oui, il reprend certains poncifs, par exemple, quelque chose qui court souvent dans le soufisme médiéval, enfin, soufisme au sens large, hein, un homme saint, pour être un saint, doit avoir une femme acariâtre, une femme mégère. Voilà, c'est une condition de la réalisation de sa sainteté.
Parce qu'il faut qu'il surmonte tous les méfaits.
Voilà. Bon,
ça fait partie d'une réelle misogynie. Oui. Apparente ou réelle.
Oui. Et d'autres, voilà, il y a d'autres passages qui dévalorisent la femme biologique, hein, j'entends bien. Alors, un des éléments d'explication, c'est que Rumi a connu, enfin, son visage divin, ou bien son support vers Dieu, était un homme, c'est Shams.
Shams, oui. Voilà. De Tabriz.
Shams de Tabriz. Hein, c'est un des éléments d'explication. Aussi, on dit qu'en langue persane, il n'y a pas de genre. C'est-à-dire, parfois, on ne sait pas si le poète ou Rumi ou un autre s'adresse à un être masculin ou bien un être féminin. On dit aussi que ce qu'il dit sur la femme, c'est purement symbolique. Et qu'il ne méprise pas pour autant la femme biologique, etc. Voilà, donc disons, et d'autres auteurs avant moi l'avaient relevé un petit peu rapidement, moi j'ai donné un peu plus de détails, par rapport à Ibn Arabi, encore une fois, c'est incomparable. Par contre, Rumi est dans une force du propos lorsqu'il parle de Marie, et le symbole initiatique que représente Marie, donc la Vierge Marie, Mariam, pour le cheminant spirituel. Hein. Par exemple, le cheminant doit accoucher. Alors lui parle de la douleur, alors qu'Ibn Arabi ne parlera jamais des
douleurs de l'enfant.
Voilà. Rumi, je ne sais pas si c'est un caractère plus persan, plus doloriste, je ne sais pas, mais en tous les cas, il insiste là-dessus. Et en tous les cas, c'est sur le fait que Marie a une complétude. Marie est cette servante transparente à Dieu et qu'elle est un modèle pour le disciple, enfin le ou la disciple, mais également pour l'homme.
Pour Rumi, le culte marial est une nécessité, c'est une phase par laquelle il faut pour les aspirants.
Oui, vu que ça revient très souvent, hein, à la fois dans le Masnaoui et dans le livre du dedans, hein, donc traduit à l'époque par Ivan Vitremirovitch, oui, c'est vraiment, on voit que c'est, pour lui, c'est un être central. Mais alors, justement, on peut se dire, mais Marie, ça reste un être sublimé. quid de la femme biologique? Alors, j'ai un peu étudié, partiellement, forcément, ses rapports dans sa vie incarnée avec les femmes. Bon, voilà, c'est toujours un petit peu délicat, mais en tous les cas, même au niveau biographique, il y a rien de comparable avec Ibn Arabi. Ibn Arabi n'a pas fondé de tariqa, comme certains le savent. Ibn Arabi, c'est le Cheikh Al-Akbar, c'est le sceau de la sainteté mohammedienne, celui qui vient sceller, qui vient donc parachever, et il a une autre fonction. Mais il a donné la khirqa, c'était à l'époque, c'était une manière de transmettre en fait une initiation spirituelle avec un manteau, une cape ou bien un objet symbolique, et puis il y avait un transfert subtil, bien sûr. Il l'a donné à 17 personnes. Parmi ces 17 personnes, il y a 15 femmes et 2 hommes.
Ce qui montre la prépondérance de l'élément féminin dans la vision spirituelle d'Ibn Arabi. Nous n'avons pas dit, c'est moi qui n'ai pas posé la question, c'est que qu'est-ce que c'est que cette affaire de Adam et Ève, et Ève serait née de la côte, certains ajoutent la côte flottante d'Adam, alors qu'en réalité ce n'est ni coranique, ouais, ni non plus dans les corpus seconds, c'est-à-dire dans la tradition prophétique.
Alors, il y aurait deux hadiths, mais qui sont dont la validité, sur ce propos. Mais donc là, on a bon, donc des vers analystes, disons, certains invalident ces hadiths, d'autres nous disent que c'est un pur symbole. Je schématise, mais et des penseurs contemporains, hommes et femmes. Et Ibn Arabi, lui, n'invalide pas, mais il nous dit que un des hadiths parle du fait que la femme est comme une côte courbée. Et attention à ne pas la casser. Bon, ce qui de fait correspond assez peu, vraiment même très peu, à l'éthique et au rapport qu'a eu le prophète avec les féminins et avec les femmes. Bon, Ibn Arabi, lui, il part du texte et il dit, oui, c'est quoi ? Courbé el-inhina. Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire, la femme, la mère, elle est penchée sur son enfant. Elle est penchée sur le genre masculin, parce que elle a plus de rahma, et pour être miséricordieux, il faut être fort. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va très loin. Pour être miséricordieux, y compris face à son ennemi, il faut une force. Alors que sinon l'être humain lambda, musulman ou pas, s'il agressé, il va se défendre, il va riposter. La rahma demande d'envelopper, comme la matrice féminine, d'envelopper, de dépasser l'antagonisme. Et peut-être qu'il faut dire un mot aussi sur ces termes-là, Ar-Rahman Ar-Rahim. Voilà, donc on est bien d'accord qu'ils viennent du sémitique Raham, qui est la matrice l'utérus féminin. Wa rahmati wasiat kulla shay, donc un verset de la sourate 7, ma miséricorde enveloppe toute chose. Mais voilà, on est dans la matrice là. Enveloppe toutes les incohérences des hommes, toute la complexité du monde. Eh bien, ma matrice enveloppe tout ça.
C'est pour ça que lorsque quelqu'un décède, on dit que Dieu lui fasse miséricorde, qu'il l'enveloppe de toute sa miséricorde.
Qu'il l'enveloppe.
Que pensez-vous, Éric Geoffroy, de ceux qui disent que la femme joue toujours un rôle pour la vertu, la spiritualité, la rectitude morale, même la pratique religieuse de l'homme, ce qui sous-entend qu'elle n'est jamais définie intrinsèquement, mais c'est toujours par rapport à l'homme. Quand elle est fille, et s'il l'éduque bien, ça le fait entrer au paradis. Quand elle est épouse, elle complète la moitié de la religion du mari. Ouais. Et quand elle est mère, ben, l'entrée au paradis, l'accès au paradis est sous ses pieds. Ouais. Mais quand est-ce, d'abord, que pensez-vous de ces trois cas? Et quand est-ce qu'on la considère intrinsèquement, indépendamment d'un lien avec ou le père, ou le mari, ou le fils?
Voilà. Alors, de fait, et j'ai un cas historique que je mentionne dans le livre, c'est la femme de El Kochairi, donc Abdelkarim El Kochairi, donc un soufi connu.
Connu pour son...
Voilà, donc
une épître.
Voilà, donc d'une épître connue du 11e siècle. Et du 11e siècle. Et sa femme, justement, donc il est dit qu'elle a été mère de soufi, épouse de soufi, fille de soufi, mais elle, son être, elle. Alors, on a des exceptions. Que les musulmans hommes célèbrent, tels que Rabia. Mais alors, lorsque l'homme musulman veut se dédouaner et dire « Ah, mais nous reconnaissons la femme », Rabia el-Adawiya, morte en 801, donc irakienne, avec un fort tempérament spirituel. Mais du coup, on estompe les autres. Or, bon, j'en parle dans mon livre, schématiquement, rapidement, il y a des milliers de femmes saintes qui ont eu leur personnalité. Et alors, par rapport à votre question, j'ai une troisième partie sur le contemporain, où là, on voit justement que ces femmes saintes, elles émergent non pas par association, par exemple, parce que dans les périodes bon, plus tardives, hein, donc avec les Zawiyas, etc., eh bien, telle femme, donc la femme d'un cher, elle a un rôle important, mais parce qu'elle est la femme du cher, etc. Maintenant, c'est différent. Il y a des femmes shaira, et là, on sort de ce schéma où, en effet, la sainte femme n'apparaît que par association comme mère de, fille de, ou bien épouse de. الكرخانات الدحمة الرنانات الدحمة باين عقل ده الساعات حد يقول له حاجة ده ايه يا صافي اللي انت ده ايه المغزى منه ده ايه الصنف الزفت ده اللي جاي منه ده الناس حد يقول له حاجة ده
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui avec l'islamologue Éric Geoffroy, nous parlons de Dieu au féminin, de la féminité, de l'importance de la femme, une importance primordiale, méconnue, qui en réalité est attestée aussi bien dans les textes mais dans la spiritualité islamique. Vous nous avez parlé, Éric Geoffroy, de cette androgynie originelle. Nous avons passé en revue les raisons, en tout cas, en dépit de tout, et même à contresens du machisme, du sexisme, de la phallocratie, voire la misogynie des hommes, en contexte islamique et même ailleurs. Et de nos jours, dans cette période contemporaine, nous constatons l'émergence de femmes spirituelles et aussi... conductrice ou en tout cas d'office religieux, elle-même se définissant intrinsèquement comme mufti, imam, sheikha, vous avez dit, ce n'est qu'un juste retour des choses.
Oui. Oui, tout à fait. Et vous savez, là, il y a une discipline qui est notamment, en fait, une discipline académique, le féminisme islamique ou bien musulman.
Mais d'aucuns nous disent que c'est oxymorique, un féminisme islamique.
Ah oui, bien sûr. Mais vous encore foutez le gratter les choses. Et alors, on n'a pas parlé de ce verset, le premier verset de la sourate, comme par hasard, En-Nisa. hein, donc la sourate 4, où quand même tous ces gens-là, des femmes donc contemporaines, mais aussi des hommes, rappellent que vous humains, craignez votre Seigneur. Enfin bon, je traduis rapidement, hein, qui vous a créé à partir d'une âme unique, nafs wahida, et qui a créé à partir d'elle son conjoint, zaujaha. Eh bien, les commentateurs et les traducteurs, la plupart des traducteurs, nous disent la première âme, c'est Adam. Or, le Dieu dans le Coran voilà, connaît la langue arabe, et c'est ce qu'il dit, hein, comme des Ibn Arabi, c'est une lettre, chaque lettre est à sa place, chaque genre est à sa place. Qu'est-ce qui vient en premier? C'est le féminin, nafs wahida. Donc, cette âme féminine, elle est première, et à partir d'elle a été créé le masculin, puisque zaouj, le conjoint, est de fait et de genre masculin. Voilà, donc c'est un des chevaux de bataille, si je puis dire. Donc des gens qui travaillent justement sur, ils ne font que dépoussiérer, hein, cet amoncellement machiste, pour faire bref, hein, qui s'est accumulé donc au cours des siècles, et revenir à la limpidité des textes coraniques et de l'exemple prophétique.
C'est-à-dire qu'on a plié le texte en dépit de sa grammaire et de l'accord, pour satisfaire aux exigences, à la culture ambiante et aux exigences
pression politique, pression culturelle et coutumière. Eh oui, tout à fait.
Alors, on l'a entendu plusieurs fois et on le dit toujours, que la femme est l'avenir de l'islam. Et vous pensez que la femme, avenir de l'islam, est davantage dans les considérations spirituelles et religieuses comme guide, comme imam, comme mufti, même, je pourrais ajouter un E à la fin, qui ne s'entend pas, ou aussi dans la vie de tous les jours?
Alors, ce que je veux dire d'abord, c'est que, d'une manière plus générale, il me semble, bon, puis je ne suis pas le seul à le penser, c'est que le féminin, le principe féminin, et donc la femme biologique en partie, reviennent, si je puis dire, en force, pour plagier, en fait, Ibn Arabi, la force du féminin. Pourquoi? Parce que nous sommes, depuis la modernité, née en Europe au XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, nous sommes dans un masculin dévoyé. C'est-à-dire, révolution industrielle, technoscientisme, hégémonisme européen, bon, après que c'est diffusé dans le monde, hein, colonialisme, les guerres mondiales qui sont comme partie du terrain européen, pour moi, ça, c'est du masculin dévoyé, c'est-à-dire qui s'est fourvoyé et qui amène à la crise écologique actuelle, etc. Le féminin revient pour tempérer et pour rééquilibrer. Pour moi, c'est déjà... Et là, vous voyez que ça dépasse l'islam et les religions. Hein, c'est quelque chose... Alors, en ce qui concerne le soufisme, par exemple, moi, je le vois, donc, en observant, par mes contacts, etc. Oui, et les femmes avec qui j'ai eu donc des entretiens, et cinq shéras, surtout, hein, qui sont deux en Turquie, une à Vienne, en Autriche, l'autre à New York.
Shéra féminin de Cher, qui serait...
On pourrait dire maîtresse spirituelle, mais le mot maîtresse est tellement dévoyé en français, que, ou bien guide spirituel. Voilà, elles le disent, leur arrivée, si je puis dire, coïncide avec un changement dans la forme de présentation sociale humaine, donc du soufisme, c'est-à-dire qui était jusqu'à présent très fortement confrérique, et on est en train de passer, bon, moi je parle de post-confrérisme, je me fais des ennemis des fois, mais je pense que le système confrérique qui depuis le XIIe siècle, XIIe, XIIIe, a eu des grandes vertus, il est malade en grande partie, et que il est très hiérarchisé, bon, bien souvent, et on est en train de passer à une forme de gnose, de connaissance, beaucoup plus diffuse. Est-ce que vous parlez, comme le faisait le génial Iqbal, de démocratie spirituelle? C'est l'expression est comme forte, hein, donc de démocratie spirituelle. En tous les cas, je crois que tout ça se diffuse davantage. Et là, la femme, par son côté inclusif, maternel, les femmes à qui j'ai eu des entretiens, elles sont toutes mères ou grand-mères. Et elles disent que ça joue beaucoup dans leur rapport à leurs disciples. voyez. Donc il y a ce côté plus inclusif, plus un rapport moins hiérarchisé, et voilà. Et donc de fait, il y a maintenant des femmes qui ont des disciples hommes, bon, femmes et également hommes. Et ça c'est exponentiel depuis quelques années, je dirais.
Et nous avons en France au moins 3 femmes imams. Et donc, c'est la dernière question. Celles qui dirigent ou conduisent la prière, des prières mixtes, c'est-à-dire les fidèles sont hommes et femmes réunis et ce sont elles qui montent en chair.
Oui, alors on a, bien sûr, j'en parle, mais je la connais bien, donc Karina Bahloul, qui est même... considérée ou bien comme la première femme imam de France. Alors j'en parle pourquoi ? Moi, dans ce livre, je ne parle que des femmes qui ont un lien avec le soufisme, parce que sinon, le dossier est immense. Or, Karina, voilà, je la connais bien, elle a un lien avec le soufisme, et avec Ibn Arabi, etc. Et, de fait, une des traces scripturaires qui est discuté, mais c'est que le prophète à Médine était déjà assez tendu, a désigné une femme qui s'appelait Umuraka, qui habitait un quartier un peu éloigné donc de sa mosquée. Et alors donc la question c'est elle a dirigé la prière. Est-ce que c'est uniquement familial? Mais dans sa famille il y avait des hommes.
Ah. Y compris son mari.
Voilà.
Dit-on.
Et aussi un serviteur, etc. Voilà. C'est un dossier. Alors, certains ulama refusent ça en bloc, mais je me rappelle avoir parlé déjà il y a quelques années avec, mais je ne vais pas citer son nom, mais avec un juriste musulman, on va dire, très orthodoxe, et qui m'a dit, écoute, en islam, il n'y a rien contre l'imamat de la femme. Il y a même plutôt pour.
Nous l'avons dit à ce même micro, en tout cas Karina Bahloul est venue défendre cette thèse et c'est à ce sujet qu'elle est venue parler comme imam. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup cher Éric Geoffroy de nous avoir édifié par cette idée de Dieu au féminin. C'était, chers amis auditeurs, Question d'Islam. Et vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Cédric Châtelus et la réalisation est assumée par l'ami Philippe Baudouin. كلامي معك حايق وحسب الدخيل حاسبني مهزوم يقول خطاك دايما عيد داي جمع ومعجوق فيك مهسوسة وهتفة ليك طبع استفساري تغلبني فيه حاسبني مهزوم يقول حبك
ادي شمال ويدي يمين ادي شمال ويدي يمين بلدي شمال ويديم أبديلك هنا هو تردلي كده هو أستلمك كده هو تشبكني كده هو حشلفلي كده هو كده كده هو أنا 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 مش فاضي Thank you.